grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Merci de nous accueillir chez vous, mon équipe et moi, accompagnés de nos invités. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mardi 24 juin 2014. Bienvenue. Dans quel état se trouve l'administration? La commémoration hier de la journée africaine des services publics. Le grand dialogue du studio Tamani décide d'en parler. Les trois volets de ce débat, l'état des lieux des services publics au Mali, la corruption au sein de l'administration malienne, les défis du service public au Mali. Nos invités, Boulaye Traoré, directeur adjoint de la fonction publique, Ahmed Yeya, conseiller technique au même département, Amadou Maïga, chef de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique. Merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Nouhoum Diré était la technique. Le Mali, à l'instar de la communauté africaine, a célébré hier la journée africaine du service public. L'objectif de la journée est de mieux informer les usagers sur le fonctionnement et la gestion de l'administration. La charte africaine sur les valeurs et les principes du service public vise à encourager les efforts des États membres dans le cadre de la modernisation de l'administration publique et du renforcement des capacités pour l'amélioration des prestations du service public. Elle est destinée également à améliorer les conditions de travail des agents du service public et renforcer la coopération entre les États membres, les communautés économiques, régionales et la communauté internationale dans le cadre de l'amélioration des services publics et l'administration. Ceci est-il réalisable au Mali, monsieur le conseiller technique Ahmed Yeya?
Rapidement la question, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être conforme pour le Mali, d'être conforme à la charte africaine sur le service public?
Merci bien, je vous remercie de nous avoir accueillis Studio Tamani. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui nous entendent aujourd'hui. Donc, il faut reconnaître que la charte africaine, si les valeurs et les principes du service public, a des grands axes qui concernent les relations avec les usagers, les dispositions qui concernent les obligations, les droits et obligations des travailleurs, les relations avec les usagers et la modernisation de l'administration, l'utilisation des nouvelles technologies dans l'administration. Donc, il faut reconnaître qu'au Mali, nous sommes vraiment très en avance parce que l'ensemble de ces dispositions, de ces engagements qui sont contenus dans cette charte, sont déjà dans nos dispositions statutaires. Quand vous prenez le statut général des fonctionnaires, vous avez les dispositions qui concernent les obligations du fonctionnaire. Le fonctionnaire doit servir avec dévouement, avec loyauté. Il doit être au service pendant les horaires de service et il doit exécuter ses différentes obligations. Donc c'est pour dire que tous ces engagements sont déjà dans nos dispositions statutaires. Et il faut reconnaître aussi que le Mali vient de ratifier en mars 2014, le Mali vient de ratifier cette charte. Donc le Mali est vraiment en conformité avec les dispositions de cette charte, surtout que nous sommes actuellement dans le cadre de la modernisation de l'administration et du renouveau de l'administration publique.
Alors, Amadou Maïga, chef de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique, l'administration publique est-elle conforme aujourd'hui avec l'attente du public malien? Vous me direz oui.
Merci, monsieur. Je joins ma voix à celle de mon prédécesseur pour vous remercier de nous avoir donné quand même l'occasion pour tenter de parler un peu de l'administration malienne. Comme vous le savez, et je crois que ça a été rappelé hier lors du discours du ministre, dans la présentation de la cérémonie par le maître de cérémonie, je crois que c'est les hommes et les femmes qui animent une administration. Si ces femmes et ces hommes sont loyaux, s'ils savent en réalité pourquoi ils sont là, s'ils font normalement leur travail sans contrepartie, comme souvent on l'entend, si tous les principes édictés par la loi sont suivis, je crois que rien n'empêche qu'il y ait vraiment une bonne administration. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une bonne administration? Comme certains aiment le dire, l'administration n'est pas faite pour rejeter. L'administration est fondée pour recevoir, régler, trouver des solutions aux problèmes des usagers que le ministre a bien voulu qualifier hier de clients. Effectivement, c'est des clients. Donc, et c'est vrai, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a ce qu'on appelle les poissons, les brebis galeux. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui est en train d'animer l'administration malienne, et force est de reconnaître que beaucoup de choses sont en train d'être améliorées. Parce que pour le moment, c'est des jeunes qui ne sont pas habitués d'abord aux gains faciles. C'est des jeunes qui sont là, qui occupent des postes de responsabilité, qui depuis sur le banc de l'école, voient la manière dont les choses marchent dans l'administration et pour eux, ils doivent venir pour relever un défi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne dit pas que tout est parfait dans l'administration, mais de plus en plus, et avec toute la modernisation dans le cadre du PDI, du CDI, je crois qu'aujourd'hui, l'administration est vraiment en train de se performer, s'il faut l'appeler ainsi.
Alors, monsieur le directeur adjoint de la fonction publique, Boulaye Traoré, est-ce que l'administration malienne est assez professionnelle?
Je vous remercie. J'ai joint ma voix à celle de mes prédécesseurs pour remercier le studio Tamani de nous avoir donné l'opportunité de nous expliquer aujourd'hui et donner des informations par rapport à l'administration malienne. Parler de l'administration malienne dans un cadre général, c'est difficile vu le laps de temps qui nous est réservé, mais nous allons tenter de vous donner des éléments de réponse. Donc l'administration malienne, comme vous l'avez dit, vous savez, il y a beaucoup de règles, les textes, les principes généraux qui sont dégagés. La charte africaine sur les valeurs et les principes de l'administration décline les grandes lignes et ce sont des objectifs à atteindre. Comme le conseiller technique a eu à le dire, si nous prenons les textes qui régissent la fonction publique malienne aujourd'hui, nous sommes en phase par rapport à cette charte africaine. Mais c'est une quête perpétuelle de perfectionnement. C'est une quête perpétuelle des atteintes des objectifs. Donc par rapport à ça, puisque nous sommes en phase, il ne reste qu'aller dans le cadre de l'application de ces grandes lignes de la charte. Donc, en un mot, je dirais, oui, l'administration malienne, nous sommes dans la mesure des moyens qui nous sont donnés pour l'atteinte des objectifs.
Avez-vous les moyens aujourd'hui?
Les moyens, je pense que dans les débats, nous allons en venir. Mais tout de suite, je dirais que les moyens, il faut que l'État mette assez de moyens à la disposition de l'administration malienne pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés.
Alors, la première vitrine d'une administration, c'est l'accueil. Ça a fait beaucoup de bruit à un certain moment. Est-ce qu'on a trouvé une solution à ce problème, monsieur le chef de cabinet?
Oui, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, dans le cadre du PDI, quand le programme est arrivé au Mali, je crois que ça a commencé par...
Le PDI.
Le PDI, c'est le programme de développement institutionnel. Okay. C'est-à-dire, et nous étions les premiers agents d'ailleurs du PDI. Donc, c'était de voir comment l'usager face à l'administration peut être satisfait sans aucune autre forme de contrainte. Et la première solution pour y remédier, c'est vraiment la création des bureaux d'accueil qui a été institué au niveau de tous les services. Et les agents qui animent ces bureaux d'accueil ont été formés à cet effet. Donc, cette formation les a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances, un certain nombre de bonnes manières pour non seulement bien connaître le service, pour mieux guider l'usager. Donc, sur ce point, je peux vous dire que, en tout cas, jusqu'ici, les services d'accueil, même si il y a à refaire, parce que, comme le directeur vient de le dire, c'est surtout les moyens qui manquent à l'administration.
Alors, je me dirige vers Ahmed Yaya, conseiller technique au ministère du Travail et de la Fonction publique. Aujourd'hui, pour un jeune, pour trouver même un poste de standardiste, il faut avoir Bac plus 4, alors que certaines de nos mamans sont à l'accueil aujourd'hui, avec certainement moins de qualifications que ça. Et pourtant, ça ne va pas. Comment est-ce qu'on peut recycler ces personnes aujourd'hui, ces travailleurs ?
Okay, je vous remercie bien. Ce que je vais dire, il faut reconnaître que le recrutement des agents obéit à certains principes, à des règles, à des normes. Aujourd'hui, il y a deux catégories d'agents au niveau de la fonction publique. Vous avez ce qu'on appelle des fonctionnaires qui sont recrutés suite à des concours directs de recrutement dans la fonction publique en fonction de leur diplôme et dans les différentes catégories A, B et C. Vous avez des contractuels qu'on appelle qui sont régis par d'autres textes, notamment le code du travail. Vous avez aussi le décret 051 qui régit ces contractuels relevant de l'administration d'État. Donc, le contractuel, le recrutement ne se fait pas sur la base d'un concours. Aujourd'hui, on a essayé de réglementer, parce qu'il faut reconnaître, avant le décret 051, il y avait le décret 058 qui régissait ces contractuels. Donc les contractuels, ils étaient recrutés dans toutes les catégories, au niveau de la catégorie A, B et C. Mais on s'est rendu compte à un certain moment que vraiment c'est discriminatoire. Il y a certains agents, certaines personnes qui font les concours, qui préparent les concours pour être admis à la fonction publique. Par contre, il y a d'autres personnes qui ne font pas de concours sur la base des dossiers, ils sont recrutés comme contractuels dans les différentes catégories. Donc, à partir de 2011, la fonction publique a pris un décret pour réglementer le recrutement de ces agents contractuels. Actuellement, on ne peut recruter comme contractuel que des agents des catégories D et E, c'est-à-dire des agents qui n'ont pas de diplôme supérieur, des agents qui sont là seulement en fonction d'une qualification professionnelle, par exemple, pour être chauffeur. Donc, vous êtes recruté sur la base des dossiers. Pour être standardiste, c'est des catégories inférieures, c'est des personnes d'appui. Donc, c'est des genres d'agents seulement qui sont recrutés sur la base des dossiers. Donc, on les appelle des contractuels, c'est le personnel d'appui. Maintenant, tous ceux qui sont des diplômes supérieurs qui veulent être intégrés comme fonctionnaires, il faut obligatoirement passer par le concours direct d'entrée à la fonction publique. Ça, c'est pour quand même permettre une équité, pour qu'il n'y ait pas quand même de discrimination pour l'accès aux emplois publics. C'est pour permettre l'égalité d'accès aux emplois publics, que vraiment ces dispositions ont été adoptées.
Alors, si vous permettez, nous allons quelques secondes en pause avant de poursuivre avec le débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti, sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou 98 MHz. Issaber de Niafunké 96.3 MHz. Merci encore une fois de nous être fidèles. Comme vous le savez, notre débat d'aujourd'hui porte sur la journée africaine du service public et le Mali l'a célébré hier. au Mali, partout sur le territoire. En cette deuxième partie, qui est donc consacrée à la corruption au sein de l'administration malienne, nous verrons avec nos invités Bourlaye Traoré, directeur adjoint de la fonction publique, Ahmed Yaya, conseiller technique au ministère du Travail et de la fonction publique, et Amadoun Maïga, chef de cabinet du même département. Alors, monsieur le directeur adjoint, quel est aujourd'hui le statut du fonctionnaire? Est-ce que ce statut a connu une amélioration après les mesures phares annoncées par le président de la République?
Merci bien. Le statut général des fonctionnaires, qu'on appelle le statut général de la fonction publique, c'est vrai qu'un document qui date de 2002, c'est la loi 02-053 qui régit les fonctionnaires. Et ce statut, depuis les réformes, il y a eu vraiment beaucoup de réformes qui ont été engagées. Et parmi les réformes phares, on peut citer la création d'un centre national de concours de la fonction publique. On peut citer, entre autres, la création des directions des ressources humaines. Donc, avec la création de ces structures qui rentrent dans le cadre de la gestion des ressources humaines, obligatoirement, il faut revoir certaines dispositions du statut général des fonctionnaires dans la mesure où les fonctions de gestion des ressources humaines étaient dans ces grandes lignes concentrées entre les mains de la fonction publique, donc à travers la Direction nationale de la fonction publique et du personnel. Aujourd'hui, ce statut est en cours de relecture. Et cette relecture a commencé et nous sommes très avancés par rapport à cela. Et par rapport à cela, nous avons, avec les partenaires sociaux, les syndicats que nous avons rencontrés, il y a eu plusieurs rencontres par rapport au statut, donc des réformes ont été proposées, des améliorations. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes très avancés, mais la relecture n'est pas arrivée à terme dans la mesure où il faut que le projet passe devant le Conseil des ministres et ensuite devant l'Assemblée nationale pour être approuvé. Donc, c'est un processus qui est en cours et nous espérons vraiment le mener à terme.
Alors, l'amélioration des conditions de travailleurs du Mali, des fonctionnaires précisément. Monsieur le directeur, monsieur le chef de cabinet, est-ce qu'on peut dire jusqu'à quand est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui cette amélioration? On a annoncé des augmentations de salaire. Alors, à quand?
Merci bien. Je pense que la question aurait dû être posée au conseiller chargé des ressources humaines, Ahmed Yaya. Avant qu'il ne rentre en profondeur, tout ce que j'ai dit, c'est une volonté. Aujourd'hui, la volonté de nos gouvernants, c'est, comme vous venez de le dire, c'est de mettre les travailleurs dans les conditions de travail. Toute chose, bien sûr, qui permet de mettre fin à la corruption dont on parle. Et dans la démarche de cette amélioration, et comme quelqu'un vient de le dire, dans les relations avec les partenaires sociaux, je crois que beaucoup de choses sont en train d'évoluer dans ce sens. Et le gouvernement ne s'est jamais soustrait des discussions qui peuvent amener à améliorer la situation des fonctionnaires. Okay. Et c'est ça qui a, c'est ce qui a fait que, en 2014, il y a eu, si vous avez suivi, la loi sur la grille consensuelle. En fait, la loi sur la grille consensuelle, ce n'est pas au sens étymologique même du mot augmentation de salaire, mais ça permet de créer une parité par rapport entre les travailleurs. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je crois que le conseiller Ahmed
Ahmed Yaya, conseiller technique.
Merci bien, monsieur le chef de cabinet. C'est pour dire abonner dans le même sens que monsieur le chef de cabinet. Aujourd'hui, il y a une volonté politique du gouvernement par rapport à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et à titre de rappel, le 26 mai 2014, on vient d'adopter une nouvelle grille, comme le chef de cabinet vient de dire, qu'on appelle une nouvelle grille indiciaire. Donc cette nouvelle grille indiciaire a permis quand même de corriger les disparités qui se trouvaient dans l'ancienne grille, la grille qui était annexée au statut général des fonctionnaires. Donc il y avait une disparité par rapport au pas des échelons. Donc cette disparité faisait en sorte que entre certains échelons, vous pouvez constater qu'il y a 5 points, d'autres 10 points. Donc il y avait une incohérence. Donc cette nouvelle grille a permis de corriger cette incohérence et ça a permis aussi de permettre une certaine, parce qu'en corrigeant ces incohérences, on a procédé à une modification des indices. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une modification, une augmentation des indices au niveau de l'ensemble des catégories et ça a été marqué par une augmentation des salaires. Donc cette augmentation des salaires, l'incidence financière, c'est plus de 6 milliards de francs CFA et ça a déjà pris effet à partir du 1er janvier 2014. C'est déjà, les fonctionnaires ont déjà commencé à bénéficier de ces augmentations. Mais ce qu'il faut reconnaître, cette grille consensuelle, cette grille indiciaire concerne seulement ceux qui sont régis par les statuts généraux des fonctionnaires. Elle ne concerne pas ceux qui ont des statuts autonomes, notamment la magistrature, l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales. Donc ça, c'est des statuts à certains domaines qui ne relèvent pas des statuts généraux, ils sont gérés. Ces différentes corporations sont gérées par d'autres statuts, qu'on appelle les statuts autonomes. Donc vraiment, l'amélioration. Aussi, il y a un autre aspect qu'il faut rappeler. Pour manifester toujours la bonne volonté du gouvernement d'améliorer les conditions des travailleurs, aujourd'hui, nous avons un projet de texte qui est dans les circuits d'approbation qui concerne l'harmonisation des primes et des indemnités. Donc le projet a déjà fait l'objet de différentes concertations et c'est déjà dans les circuits d'approbation. Donc l'adoption de ce projet aussi consiste à améliorer les conditions de vie de travail des travailleurs.
Alors, 2014 a été déclaré année de lutte contre la corruption au Mali. Le service public passe également par votre département. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut connaître le point de départ de cette lutte contre la corruption au sein de l'administration, monsieur le chef de cabinet?
Bon, je pense que, pour ne pas vous mentir, d'abord, le mot corruption est sur toutes les langues. Mais en réalité, pour qu'il y ait corruption, pour qu'il y ait des corrompus, il faut des corrupteurs. C'est vrai que aujourd'hui, c'est les usagers, même en réalité de l'administration, qui tentent le fonctionnaire dans de telles pratiques.
Et le fonctionnaire qui accepte?
Bon, le fonctionnaire, ce n'est pas tous les fonctionnaires qui acceptent.
Ce n'est pas tous les usagers non plus.
Non plus. Il y a des fonctionnaires qui sont intègres et qui veulent vraiment mériter leur salaire. Par contre, comme je l'ai dit dans mon introduction, dans tous les cas, il y a des brebis galeux. Et ça a vu. Maintenant, effectivement, la lutte contre la corruption est engagée. Et je crois que, à l'heure où je vous parle, les travaux pour sa mise en route sont en train d'être effectués. Pas plus qu'aujourd'hui, il y a une réunion de concertation sur les stratégies de mise en œuvre de ce plan de lutte contre la corruption. C'est vrai que ça va être long, mais petit à petit, je crois qu'on va arriver à bout de ce que nous cherchons par rapport à la corruption au sein de l'administration.
Alors, Boulaye Traoré, vous êtes directeur adjoint de la fonction publique. Tout le monde, les experts disent qu'il n'y a pas de petite corruption. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques sanctions qui peuvent être infligés à un fonctionnaire aujourd'hui s'il s'avère que ce dernier a été accepté d'être corrompu?
Merci. Vous savez, le statut général des fonctionnaires, dans ses dispositions, avec son décret d'application, énumère un certain nombre de paliers par rapport aux sanctions. Ça va des blâmes jusqu'au licenciement. Donc, je pense que les dispositions du statut, les dispositions législatives et réglementaires sont vraiment claires en la matière. Donc, un fonctionnaire peut être blâmé, le fonctionnaire peut être rétrogradé, le fonctionnaire peut même être licencié pour faute grave liée à l'exercice de sa fonction. Voilà.
Alors, monsieur le conseiller technique, allons plus loin dans cette réflexion. Est-ce que les fonctionnaires peuvent craindre aujourd'hui d'un licenciement? Généralement, c'est pas commun, ça fait pas partie du quotidien.
Bon, il faut reconnaître que, comme le directeur adjoint de la fonction publique vient de le dire tout à l'heure, vous avez toutes les dispositions statutaires par rapport au licenciement. Donc, s'il y a des fautes graves, souvent les licenciements interviennent après les décisions de justice. Une fois qu'un agent est sanctionné suite à un détournement des deniers publics, il a été condamné par la justice, d'office il est licencié. Aujourd'hui, à la fonction publique, vous avez de nombreux fonctionnaires qui ont été licenciés suite à des détournements des deniers publics après des décisions de justice. Donc, ce n'est pas inscrit. Bon, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et c'est des principes qui sont appliqués. Les textes, vraiment, sont très clairs. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, pour abonder dans l'autre question, pour compléter mon collègue, la corruption, aujourd'hui, c'est une volonté de l'État pour lutter contre la corruption. On vient de tenir les états généraux sur la lutte contre la corruption. Il y a eu des recommandations, il y a eu un plan d'action qui a été élaboré pour lutter contre la corruption. Il est prévu de renforcer les structures de contrôle pour essayer de prendre les dispositions pour lutter contre la corruption. Vous avez aussi d'autres mesures d'accompagnement. L'État envisage d'améliorer les conditions de travail parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas un bon traitement, qui n'a pas un bon salaire, qui n'est pas dans de bonnes conditions de travail, c'est pas évident. C'est pour ça que l'État est conscient de tous ces aspects pour lutter contre la corruption. Mais il est prévu quand même le licenciement, et c'est très clair. Une fois qu'un agent est mis même en mandat de dépôt, on suspend son salaire.
Alors, un petit exemple, chef de cabinet. Il n'y a pas de petite délinquance, il n'y a pas de petite corruption non plus. Voilà. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous dire quelques exemples ou bien quelques mises en garde aujourd'hui à ceux qui s'adonnent encore à cette pratique? Qu'est-ce qu'ils doivent craindre?
Bon, je pense qu'ils doivent beaucoup craindre. Parce que vous savez, il n'y a pas très longtemps, tous les ministres ont signé un contrat de performance avec le Premier ministre. Et dans ce contrat de performance qui décline les activités de chaque ministère et les objectifs à atteindre par rapport à ces activités dans un temps bien donné. Et dans ce contrat de performance, il y a bien sûr les poursuites par rapport aux agents qui sont tentés par la corruption ou bien qui ont pris la main dans le sac par la corruption. Et ils ont même appelé ces sanctions des sanctions pénales poursuivables devant les juridictions. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, aucun agent, en tout cas conscient ou bien soucieux de son avenir, je crois, ne tentera de se mettre dans des positions qui vont le mettre devant la justice pour dire que simplement il a été corrompu dans l'exercice de sa fonction pour lequel le contribuable malien le paye tous les mois que Dieu fait. Donc, c'est le couteau de Damoclès qui est sur aujourd'hui la tête de tous les agents de l'État.
Ce qui semble être arrivé à bon port. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de ce débat.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Vous pouvez écouter également cette émission en direct sur notre site web www.studiotamani.org. Le Grand Dialogue, c'est l'espace de débat du Studio Tamani qui réfléchit sur les sujets du quotidien de vous, Maliens, du Nord comme du Sud. Pour aujourd'hui, le sujet, c'est la journée africaine du service public. Cette partie est consacrée au défi du service public au Mali. Nos invités, Boulaye Traoré, directeur adjoint de la fonction publique, Ahmed Yaya, conseiller technique au ministère du Travail et de la fonction publique, et Amadou Maïga, chef de cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique. Alors, les défis du service public au Mali, quelles réformes faut-il entreprendre aujourd'hui, Boulaye Traoré, directeur adjoint du service de la fonction publique?
Merci. Les grands défis de l'administration publique malienne aujourd'hui, c'est les grands défis qui connaissent pratiquement toutes les administrations en Afrique. Moi, je pense que si nous jetons un coup d'œil à la charte africaine sur les valeurs et les principes, les défis sont déclinés. Donc, parmi lesquels, on peut d'abord, il faut promouvoir les valeurs et les principes de la démocratie, de la bonne gouvernance, les droits de l'homme et le développement. Donc, ça, c'est indispensable par rapport à toute administration publique. Il nous faut aussi promouvoir les valeurs et les principes qui régissent l'organisation du service public et de l'administration. La nécessité de préserver la légitimité du service public, d'adapter les services publics africains aux besoins émergents sur le continent. Parce qu'aujourd'hui, il est indispensable de pouvoir rendre des services de qualité, de pouvoir rendre des services diligents. Le chef de cabinet l'a rappelé un moment. Parce que ceux qui viennent généralement à l'administration, on ne peut plus les considérer comme des usagers, mais ce sont des clients. Des clients qui sont de plus en plus exigeants. S'ils sont exigeants, nous devons, nous qui sommes à leur service, le service public, de rendre des services de qualité. Et ces services de qualité, je pense qu'en allant dans ce sens-là, c'est seulement dans ces conditions qu'on pourra satisfaire ces clients-là. Donc, la volonté collective d'œuvrer inlassablement à la modernisation de l'administration. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être en marge du développement. En marge du développement des techniques de l'informatique, de la communication, il faut être en phase avec toutes ces techniques-là. Moderniser l'administration. Si nous devons moderniser l'administration, il faut mettre les moyens. Et les moyens humains, mais aussi les moyens financiers, il faut former les hommes. Il faut former les hommes parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qui animent cette administration, ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être à la hauteur parce que les outils de l'informatique et de la communication n'attendent pas. Donc ça, c'est quelques grandes lignes. Il faut les avoir au niveau de l'administration et ces hommes à hauteur pour pouvoir obtenir une administration à hauteur du souhait.
Alors, dans l'immédiat, monsieur le chef de cabinet, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rendre plus performante l'administration malienne, Amadou Maïga? Amadou Maïga.
Bon, je crois que le directeur a tout dit. Hein. C'est-à-dire, pour rendre l'administration malienne plus performante, il faut des ressources humaines de qualité. Et il faut aussi que ces ressources humaines soit épuisé dans l'élite jeune. Et il faut aussi que ces ressources humaines soient accompagnées vraiment de moyens. Parce que quel que soit ce que tu as dans la tête, quel que soit ton génie de concepteur, si les moyens qui te permettent de mettre en route tout ce que tu as à concevoir, si ces moyens n'existent pas, ce n'est que vraiment des simples constructions de phrases. Vous m'excusez l'expression. Donc, aujourd'hui, moi je sais qu'une administration qui a une ressource humaine bien formée et des moyens de financement, d'accompagnement, va être forcément une administration performante.
Alors, pour que l'administration malienne puisse aller de l'avant, il faut également qu'elle puisse se défaire de la corruption. Est-ce que ce défi également est réalisable aujourd'hui, Ahmed Yaya, conseiller technique au ministère de la fonction publique et du travail?
Merci bien. Ce défi, il est déjà mis en œuvre. C'est un travail permanent. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je pense bien que l'administration est aujourd'hui dans les conditions de les dispositions législatives et réglementaires existent déjà pour lutter contre la corruption. Il s'agit de vraiment d'aller vers la bonne gouvernance, la transparence, l'équité, et vraiment prendre toutes les dispositions pour mettre aussi les agents dans les conditions de travail. Donc je pense que l'État est déjà engagé dans cette dynamique et on est en train d'évoluer. Effectivement, nous sommes dans une société où il y a la résistance au changement. Mais étant donné que vraiment les décisions, les mesures sont en train d'être prises dans ce sens, je pense que l'État a les moyens de relever ces défis.
Alors, au sein des services publics aujourd'hui, le constat est clair, ça ne va pratiquement pas, il y a des choses à améliorer. Est-ce qu'à l'interne, il y a des formules qu'il faut adopter aujourd'hui, des exemples qu'il faut imiter pour que l'usager se sente réellement pris en compte dans les services publics, Boulaye Traoré?
Merci bien. Donc, au niveau de nos administrations, vous savez, le service public, j'aime bien ce terme-là parce que il est très évocateur. Les services publics au niveau du Mali ne sont pas situés aux mêmes enseignes. Si nous faisons un peu le tour des services, il y a des services qui ont, dans le cadre de l'atteinte des objectifs, qui ont vraiment initié des démarches qui permettent vraiment aux usagers, aux clients, vraiment d'être satisfait, de pouvoir se plaindre, de pouvoir apporter des critiques pour permettre au service vraiment de s'améliorer. L'exemple le plus palpable que je peux donner, c'est la direction des impôts. La direction des impôts, c'est une structure, un service qui a vraiment beaucoup avancé dans ces domaines-là, dans le cadre du recouvrement, dans le cadre même de la prise de contact avec les agents. Ils mettent les clients à l'aise et puis maintenant on leur donne des informations dont ils ont besoin et ça permet aussi aux clients, aux usagers qui viennent vraiment de se confier sans problème. Donc à l'image de ce service-là, je pense que beaucoup de services peuvent aller dans le même sens, s'inspirer de cette image-là, des méthodes, de cette méthodologie pour pouvoir vraiment améliorer ses performances. Nous aussi, au niveau de la direction de la fonction publique, la porte est grandement ouverte. La porte est ouverte, nous permettons à tout le monde. Par exemple, je dis, bon, je suis là, si vous avez besoin de moi, vous venez, on échange, vous posez le problème, on voit dans quelle mesure on peut le résoudre. Si le dossier est bon, ben voilà, on fait le nécessaire pour que ça passe. Dans les cas contraires, on vous dit, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Maintenant, ça permet à l'usager d'avoir la bonne information par rapport à son dossier. Et moi, je pense que tout le monde est satisfait.
Alors, votre idée de l'agent modèle serait quoi aujourd'hui, monsieur le chef de cabinet?
Bon, pour moi, l'agent modèle, c'est vraiment l'agent qui fait correctement son travail. Il n'est pas soumis à la corruption. Il vient au travail à l'heure. Il quitte à l'heure, bien sûr, réglementé. Et il satisfait les usagers. Et par rapport à ça, pour un peu l'appuyer, vous savez, souvent, les usagers ne sont pas très, très patients, ignorant, en fait, la procédure administrative par rapport à un règlement d'un dossier administratif. À titre d'exemple, un agent qui fait une formation, qui a besoin d'être régularisé, il met dans son dossier son diplôme. Peut-être qu'il ne sait pas que ce diplôme doit aller dans l'établissement qui a produit le diplôme pour être authentifié, pour dire au directeur de la fonction publique que ce diplôme qui est dans le dossier est bon ou bien mauvais. Donc dès que l'agent il fait une semaine, deux semaines, alors que l'authentification peut prendre des mois au niveau de l'établissement, dès qu'il fait une semaine, deux semaines, son dossier n'est pas prêt, il crie. Mmh. Ou bien il se dit que, ouais, peut-être qu'il attend que je lui donne de l'argent.
Est-ce que l'administration communique assez sur ces procédures?
Bon, je crois que l'administration communique parce que tous ceux qui viennent demander ce service, c'est des fonctionnaires qui sont sous le statut de fonctionnaire. Et aujourd'hui, pour moi, tout fonctionnaire, le statut de fonctionnaire, c'est son Coran. Donc, il doit le connaître
Mieux que quiconque.
Voilà.
Alors, monsieur le conseiller technique Ahmed Yaya, conseiller technique au ministère du Travail et de la Fonction publique, votre idée du client, comme vous le dites depuis qu'on a commencé ce débat, de l'usager modèle, c'est quoi?
Merci bien. Je pense que la raison d'être même de l'administration, c'est les usagers. S'il n'y a pas d'usagers, il n'y a pas d'administration. Je pense que l'usager doit être au cœur de nos réformes, doit être au cœur même du fonctionnement de l'administration. Donc, on a créé, comme ça a été dit tantôt, des bureaux d'accueil d'orientation. Et un usager qui se présente dans un service actuellement, il n'a pas besoin d'aller demander, quand il va à la direction de la fonction publique, je vais rencontrer le directeur adjoint de la fonction publique ou bien je vais rencontrer le chef de cabinet. Il y a un bureau d'accueil qui est là pour lui donner toutes les informations par rapport à son dossier, pour l'orienter, pour lui donner des conseils, pour lui communiquer les dossiers qu'il doit constituer par rapport à une situation administrative. Donc, je pense que l'usager, c'est un partenaire de l'administration. Donc, il doit avoir un bon rapport entre l'usager et l'administration. Donc, l'administration, non seulement est au service de l'usager, mais l'usager aussi doit respecter les conditions de fonctionnement d'une administration. S'il y a un bureau d'accueil dans un service, l'usager ne doit pas aller, ne doit pas contourner ce bureau d'accueil pour aller rencontrer X ou Y par rapport à son dossier. Normalement, les administrations sont en train de fonctionner, de se moderniser pour que vraiment les usagers puissent être occupés depuis l'entrée même du service. Donc, je pense qu'il doit y avoir un rapport de partenariat, il doit y avoir un respect mutuel entre les usagers et l'administration pour que notre administration puisse fonctionner et pour que l'intérêt général puisse triompher.
Donc, l'usager modèle, c'est l'usager qui respecte tout ce qui est affiché comme règlement devant le service
public. Et quand
on
ne sait pas lire, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, si on ne sait pas lire, comme il vient de le dire, il y a les services d'accueil et d'orientation.
Pour diriger.
Oui,
pour un diriger. Mot à ajouter.
Non, vous avez même, aujourd'hui, le CDI a élaboré des formulaires pour orienter même quelqu'un qui ne sait pas lire. Il y a des indications. À travers, il y a des sketchs qui se font. Il y a plusieurs manières de communication. Vous avez des documents dans lesquels il y a des signes par rapport à des comportements dans une administration.
Quelque chose à ajouter ? Ok, merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Tout le plaisir était le nôtre de vous proposer ces quelques heures d'écoute. Je vous rappelle que les discussions portaient sur l'état du service public au Mali, avec en mémoire la commémoration hier de la journée africaine du service public. Et comme d'habitude, nous avions trois axes dans ce débat: l'état du service public au Mali, la corruption au sein de l'administration malienne, les défis du service public au Mali. Nos invités: Boulaye Traoré, directeur adjoint de la fonction publique, Ahmed Yaya, conseiller technique au ministère du Travail et de la Fonction publique, et Amadou Maïga, chef de cabinet du même département. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, assisté à la technique par Nouhoum Diré. Ousmane Tiadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chaîne Libéro.
Haloud Mouni.
Chaîne Libéro. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.